j'ai dans mon cœur et je suis vraiment contente de pouvoir le partager avec vous. J'avais envie de vous parler des épreuves, des souffrances qu'on peut rencontrer dans la vie, mais au-delà de ça, parce que le but c'est de repartir reboosté, comment sortir vainqueur de ces épreuves qu'on peut traverser dans nos vies. Parce qu'on a tous des épreuves, on a tous des peurs, on a tous des domaines de nos vies où il y a des blessures qui ne sont pas cicatrisées, ou des choses difficiles. C'est quelque chose qu'on traverse tous. Donc je pense que tout le monde va pouvoir repartir avec quelque chose pour l'encourager. Et pour commencer, on va prier. C'est toujours mieux. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est vie, qui prend vie en nous. Et aujourd'hui, je te prie d'ouvrir les cœurs, que nos cœurs soient comme une terre fertile, prête à accueillir ce que tu vas nous donner. Et Seigneur, je te remets chaque personne ici, je te prie pour chaque personne qui est là, pour qu'elle puisse repartir encouragée, qu'elle puisse repartir pleine d'espérance, qu'elle puisse repartir en sachant que tu es le Dieu plein d'amour qui ne change pas et tu es le Dieu de l'impossible. Amen. Alors, pour commencer, je vous propose de lire un passage assez connu dans Jean 5. Alors, je l'ai affiché, voilà, ce sera plus simple, je vais le lire. « Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui restaient couchés. Des aveugles, des paralysés, des impotents. Ils attendaient le bouillonnement de l'eau, car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Le premier qui est entré après le bouillonnement de l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. » Tu peux mettre la diapo d'après, voilà. C'est une peinture, je ne sais pas l'auteur, pour illustrer un peu ce passage. Et je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais quand on lit le texte, Jésus, il pose quand même une question qui peut paraître surprenante à l'homme. Il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Alors si on regarde cette peinture et qu'on se dit que c'est fidèle à la scène, effectivement, je pense que sa maladie, elle se voyait de l'extérieur. L'homme, dans le texte, il dit que l'homme est couché et en plus il se trouve à la piscine de Bethesda, qui est un lieu connu où les gens vont pour justement être guéris. Donc sa question, elle peut paraître un peu bizarre, voire offusquante. Hein? Mais en fait, Jésus, il est souvent provocateur et derrière sa question, j'ai appelé ça une question interrupteur, c'est-à-dire qu'il cherche, il y a un but derrière. Et on va voir un petit peu plus loin que ça. Il veut déclencher quelque chose. J'ai envie de vous demander de vous imaginer, vous êtes malade depuis 38 ans, donc dans cette situation. Et Jésus vient vous voir en personne et il vous demande « Veux-tu être guéri ?» Quelle va être votre réponse ? Comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a une autre réponse qu'on peut donner ? Pas vraiment. Hein ? Mais pourtant, l'homme, il ne répond pas oui. Il commence à énumérer à Jésus toutes les raisons pour lesquels il n'est pas encore guéri. Il se justifie. Hein, au lieu de dire « Oui, tout de suite, oui Jésus, je vais être guéri. » Non, il dit « Personne ne m'aide. Il y en a qui vont avant moi, je ne suis pas assez rapide. Les autres me passent devant. » Et il énumère un peu toutes les... Voilà, il va dire « Ah, mais tu comprends, il y a ci, il y a ça et tout, c'est pour ça que je ne suis pas guéri. » Alors, je vais juste clarifier quelque chose. La souffrance physique ou morale, c'est toujours une épreuve. Hein. Cet homme, ça faisait 38 ans qu'il était malade. J'ai pas 38 ans encore, mais je peux même pas imaginer 38 ans de maladie, de souffrance. C'est terrible. C'est une terrible épreuve. Et souvent, elle va agir au-delà même du problème, c'est-à-dire la souffrance physique, elle va s'accompagner, elle va avoir des dommages collatéraux un peu. Et par rapport à ça, je veux juste vous partager un témoignage. L'an dernier, donc après la naissance de notre troisième fille, j'ai eu des problèmes suite à l'accouchement. Et en fait, c'était des douleurs physiques, mais terribles. Et non seulement j'avais mal, mais en fait, cette douleur, ça venait m'atteindre dans mon caractère, dans ma patience. Dès que j'avais mal, je me disais, ah là là, j'étais déprimée. Quand je commençais à avoir mal le matin, je savais que j'en avais pour la journée. Et quand Mathieu travaillait, je me disais, mais je vais être toute seule toute la journée à assumer le quotidien, mais comment je vais faire? J'avais toutes ces pensées-là qui venaient m'assaillir. Et ça, c'est un peu la maladie, la souffrance physique. Souvent, voilà, elle s'accompagne en plus. Elle vient pas toute seule, malheureusement. Elle vient en plus avec des choses dont on se passerait bien. Je veux juste faire un petit aparté. Dans le psaume 34, il y a un verset qui dit... j'ai pas noté exactement, mais en gros, qui dit que j'ai appelé l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes craintes. C'est au pluriel. Donc, on peut aussi transposer ça à nos souffrances. Voilà, quand la souffrance vient, qu'elle n'est pas seule, Jésus peut non seulement nous apporter une guérison au niveau de la douleur, mais au-delà de tous les effets que ça peut avoir dans nos vies. Jésus, c'est quelqu'un qui est rempli de compassion pour ceux qui souffrent. Souvent, on voit des versets dans la Bible où il dit « Jésus, pris de compassion pour la foule », c'était ça, c'était l'amour, la compassion qui le poussait à agir pour les personnes, qui le poussait à guérir les malades. C'était pas de l'apitoiement, c'était pas « Oh, le pauvre », c'était pas ça, c'était la compassion et l'amour, c'était différent. Et qui est mieux placé que lui pour savoir ce que c'est? Il l'a vécu, il l'a expérimenté dans sa chair, dans son âme, la souffrance. Alors, quand nous souffrons, courons à lui. Parce que lui, non seulement il a la clé, mais en plus, on peut s'identifier à lui et lui connaît exactement ce par quoi on passe. Et par rapport à ça, je me souviens, donc suite à ces problèmes de santé que j'ai eus, j'ai dû subir une opération. Et tout a été conduit pour que ça se fasse rapidement. C'était tellement un soulagement que je pouvais me faire opérer. Et en fait, les 2 semaines après l'opération ont été encore pires que les douleurs que j'avais vécues jusqu'à présent. Et franchement, j'étais hyper découragée. Et je me disais, mais je vais jamais m'en sortir. Ça va jamais terminer. Ces douleurs sont là encore pires qu'avant, alors que je me suis fait opérer. Enfin, franchement, même je disais à Mathieu, mais on peut plus habiter à Montélimar. Il faut qu'on. Moi, je peux plus vivre, assumer le quotidien. Il va falloir qu'on ait quelqu'un qui m'aide quand tu travailles parce que c'est pas possible. Enfin, j'étais vraiment, vraiment découragée. Et pendant ces moments-là où, on priait pour que Dieu me soulage de ces douleurs et je comprenais pas. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter comme ça. Mais je me souviens qu'il y a un chant en particulier auquel je me suis accrochée. C'était un chant qui disait « Comme le cerf soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. » Et c'est devenu comme la prière de mon cœur parce que je pouvais me raccrocher qu'à ça. Je ne comprenais pas, j'étais découragée, j'étais aussi en colère quelque part, mais je disais « Je me raccroche à ça, mon âme soupire après toi, malgré tout. » Et Jésus, quand on est comme ça, il souffre avec nous. Dans Romains 12, il est écrit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Lui, il souffre avec nous, il pleure avec nous. Et c'est pas... Ça aussi, je veux le dire pour que vous compreniez bien la suite de ce que je vais vous partager. C'est pas un manque de maturité spirituelle que d'être atteint par la souffrance. On a des émotions, on expérimente des choses et souvent, en tant que chrétien, on peut avoir tendance à dire non, je suis pas blessé, pas que dans le physique, hein, mais quand on ah non non, je pardonne, c'est bon, tout va bien et tout. Mais notre souffrance, elle est réelle. Et ça veut pas, ça fait pas de nous quelqu'un de moins bien, de moins spirituel que de souffrir. Mais le but, c'est de pas s'installer dans cette souffrance. Parce qu'après, on peut s'installer dans cette souffrance. Il y en a un petit bout qui souffre. Attends, c'est fermé, Olive. Les clés. Excusez-moi. Bichou, bichette. Bichou. Un petit gars. Et en fait, en regardant la réponse de cet homme, oh. Petit Ezra, il y avait quelque chose qui me venait, c'est que parfois on peut un peu s'installer dans un état d'esprit de victime. Qu'est-ce que c'est un état d'esprit de victime ? C'est ce qui nous fait dire, mais c'est pas ma faute. Mais si j'avais ça, eh ben, je serais plus heureux. Et puis, si j'étais sortie de cette problématique-là, ma vie irait mieux. C'est tout ce qui nous fait dire, en fait, que c'est la faute des circonstances extérieures à ma vie. Et, en fait, ce qui se passe à c'est comme si ce qui se passe à l'extérieur de moi, ça va dicter ma vie, ça va définir mes réactions, comment je réagis, ça va conditionner comment je me sens. Et en fait, l'état d'esprit de victime, c'est subir. C'est je subis, je n'ai aucun pouvoir, aucune maîtrise sur ce qui se passe, donc je subis, et puis je reste là prostrée, et puis j'attends que ça passe, et puis quand ça sera passé, ah ben ça ira mieux. Et parfois on peut être un peu comme ça, à travers ce qui nous arrive, à travers les épreuves de nos vies, que ce soit des maladies, mais autres, hein, ça peut être aussi des blessures dans les relations, ça peut être plein de choses, des problèmes d'argent, des addictions. Ah, j'attends que ça passe, parce que moi, je peux rien. Une expression qui me marque quand on dit « c'est plus fort que moi ». Qu'est-ce qui est plus fort que toi ? Ça me fait... Cette expression, ça veut dire beaucoup de choses. Et dans la vie, eh ben, je ne peux pas maîtriser ce qui m'arrive. Il y a des choses que je maîtrise, mais il y a des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des épreuves qui arrivent, il y a des circonstances. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, je peux maîtriser ce qui se passe en moi. Ça, c'est les fruits de l'Esprit, c'est ce que l'Esprit produit en nous. Et ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça va définir comment je vais réagir. Et on a toujours le choix de comment on va réagir. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais on peut toujours choisir comment on va réagir. Ça nous appartient à nous. Et Dieu, c'est pas l'auteur des maladies. C'est pas lui qui nous les envoie pour... Parfois, on aimerait... Le monde dit ça. Parfois, même en tant que chrétien, on dit « Ah, mais Dieu te donne cette maladie pour t'apprendre quelque chose. » Moi, je crois pas ça. Il se sert de nos épreuves pour nous enseigner. C'est différent. C'est pas lui l'auteur du mal. Mais Dieu est bon et il fait tout concourir à notre bien, ça c'est dans Romains 8. Et il peut transformer nos épreuves à sa gloire. Et j'avais envie maintenant d'aller un peu plus loin par rapport à ça, ça m'a vraiment marqué par rapport à cet état d'esprit de victime. Parce que ce n'est pas quelque chose avec lequel Dieu nous a créés. Quand il nous a créés, il ne nous a pas donné un état d'esprit de victime. Et il ne nous considère pas non plus comme tels. Et hier, on était chez des amis à Valence. Et notre amie nous partageait qu'elle avait fait une retraite récemment et qu'elle avait vécu des choses très fortes avec Dieu. Et notamment à travers un livre qu'elle nous a offert. Elle m'a dit, quand j'ai vu la couverture, je n'ai pas eu envie de l'acheter. Mais quand elle me l'a lu, waouh ! Profondeur dans les révélations. Je vais vous lire un extrait. « Mon enfant, tu n'as pas connu ce que tu es. Je ne te connais pas encore. Tu ne te connais pas encore. Je veux dire, tu n'es pas vraiment connu comme l'objet de mon amour. Et par suite, tu n'as pas connu ce que tu es en moi. et tout le possible qui est en toi. Éveille-toi de ce sommeil et des songes mauvais. Tu ne vois de toi-même, à certaines heures de vérité, que les échecs et les défaites, les chutes, les souillures et peut-être les crimes. Mais tout cela, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton vrai moi, ton moi le plus profond. Sous tout cela, derrière tout cela, sous ton péché, derrière toutes les transgressions et tous les manques, moi je te vois. Je te vois et je t'aime. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer, si vous sentez que dans certains domaines de votre vie, vous vous sentez victime, eh bien, je crois qu'il y a une invitation de Jésus à renoncer à cet état d'esprit maintenant. Et Jésus, aujourd'hui, vous pose la question, est-ce que tu veux ? Alors après, on met ce qu'on veut derrière. Là, il a demandé à l'homme paralysé, est-ce que tu veux être guéri ? Mais maintenant, Jésus s'adresse à chacun d'entre nous et il nous dit personnellement, est-ce que tu veux être délivré de cette peur, être guéri de cette maladie, être libéré de cette addiction? Est-ce que tu veux? Et je vais vous inviter, si, par rapport à ce que vous sentez maintenant que l'Esprit dépose dans vos cœurs, à vous lever. Carole, si tu peux mettre le chant, il y a un chant que j'aime beaucoup, alors c'est en anglais, mais qui dit « Je ne suis pas une victime ». Et je veux vraiment vous inviter à, même si vous ne comprenez pas les paroles, vous comprendrez « I am no victim », je ne suis pas une victime. Parce que c'est pas, non seulement ce n'est pas qui vous êtes, mais Dieu ne vous voit pas comme ça. Et ce n'est pas son désir que vous soyez comme ça. Et peut-être vous ne voyez pas comme ça, et c'est chouette, mais il y a peut-être des domaines dans lesquels en ce moment, ah, là, je me comporte comme une victime. Et je veux vraiment vous inviter à vous lever, parce que je veux vous... Enfin, ouais, je nous invite à amener ça à Dieu. Je vais vous conduire très simplement. Vous n'avez pas besoin de parler à voix basse. Premièrement, je vous invite à reconnaître, à confesser à Dieu dans quel domaine de votre vie vous vous positionnez en victime, face à quelle épreuve, face à quel problème. Je vous encourage à parler avec votre bouche. Hein. Vous n'êtes pas obligé de parler très fort, mais il y a une puissance dans la parole. Quand vous parlez, il y a des choses qui se passent. Une fois que vous avez reconnu, je vous invite à entrer dans la repentance. La repentance, c'est à la fois la demande de pardon, demander pardon à Dieu, vous êtes comporté comme une victime, d'avoir été partenaire avec ce mensonge. Et puis demandez à Dieu de renouveler votre intelligence par rapport à ce domaine de votre vie. C'est l'Esprit qui révèle. Une fois que vous avez identifié ce mensonge, renoncez-y maintenant. Renoncez à cette attitude, demandant l'aide du Saint-Esprit. Just lift up your eyes, let your faith rise. Et puis une fois que vous avez renoncé, demandez à Dieu de vous révéler quelle est sa vérité, quel est son désir pour vous, qu'est-ce qu'il vous donne. Est-ce que vous avez écarté un mensonge, mais Dieu veut vous donner quelque chose en échange. Et recevez-le, accueillez-le. Parce que nous ne sommes pas des victimes. Tu ne nous as pas créés victimes, tu nous as donné la victoire et nous sommes plus que vainqueurs par ton sacrifice, Jésus. On veut recevoir cette vérité maintenant. Merci, Papa. Amen. Vous asseoir. Merci. Ça fait du bien. Vous savez, il n'y a pas de plus grande révélation que celle qu'on reçoit directement par Dieu. Parfois, on va être super impacté par quelqu'un qui a une parole pour nous, une parole de connaissance super précise et tout. Mais c'est super et la prophétie, c'est vraiment, on en a encore parlé mardi, on l'a expérimenté, quelque chose que Dieu nous donne, un don que Dieu nous donne pour nous encourager, nous exhorter les uns les autres, nous édifier. Mais il y a une puissance dans les révélations qu'on reçoit directement de Dieu. Et là, je vous ai fait un peu passer par cet outil qu'on a appelé les 4 R. Ça n'a rien de magique et c'est quelque chose que vous pouvez le prendre en photo si vous voulez, que vous pouvez vivre seul dans vos temps avec Dieu. Quand vous sentez que, bah tiens, par rapport à ça dans ma vie, voilà où j'en suis, par rapport à, il y a ce mensonge-là et tout, paf, prenez un temps, c'est un mnémotechnique, hein, les 4 R, ça nous permet de nous rappeler plus facilement, mais je vous encourage voilà, à utiliser ça pour recevoir ce que Dieu veut vous dire, à vous directement, parce qu'on a... Grâce à Jésus, on a accès direct au Père. Ça, c'est génial. Amen. Parfois, on a tellement appris à vivre avec nos épreuves, avec notre souffrance, qu'on ne la ressent même plus. Et c'est valable dans le domaine physique, mais aussi dans le domaine moral. Hein. Et si vous... Même peut-être aujourd'hui, il y en a qui disent « Non, mais moi, je vais bien, je n'ai pas d'épreuve, tout va bien. » En fait, c'est... Si vous sentez que vous n'avez pas de peur, pas de problème, c'est peut-être parce que vous avez conditionné votre vie pour éviter de ressentir cette peur, pour éviter de ressentir la souffrance. Parce qu'on est tous pareils, quand ça fait mal, hop, on se retire. Quand on met sa main sur une plaque brûlante, hop, on la retire vite. Hein, ça, c'est normal. Et un petit exemple rigolo par rapport à ça. Au début de l'année, Élodie, elle a commencé des cours de danse. Et puis, Héloïse, elle a dit « Ah, moi aussi, samedi, je veux venir avec toi. » Et puis, Héloïse m'a dit « Allez, viens avec nous et tout. » Et je les ai écoutées. Et moi, la danse, c'est vraiment pas mon truc. Ça n'a jamais été mon truc. Ce n'est vraiment pas mon truc. Mais j'ai dit « Allez et tout, ça va être rigolo. » Franchement, j'ai passé une heure et demie où j'étais mal à l'aise, où je regardais l'heure, je me disais, ah, c'est bientôt fini, je faisais les mouvements comme ça, je me sentais complètement ridicule. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi ridicule. En fait, je me suis dit, mais c'est parce que je ne m'expose plus trop à ce genre de... Je ne sors plus trop de ma zone de confort par rapport à la danse. Et mais Dieu n'a pas fini. Regardez ce qu'on a vécu à la dernière soirée à ciel ouvert. Et moi, je crois que ça ne veut pas dire que je vais devenir une danseuse étoile, mais en tout cas, je suis sûre que Dieu veut m'amener plus loin par rapport à ce domaine-là. Mais tout ça pour vous dire que on fonctionne comme ça, hein, quelque chose de désagréable, hop, on va l'éviter, ça, je le sors de ma vie. Et il y a des fois où, bah, bien sûr, on se protège, c'est normal, mais il y a des fois où c'est pas toujours pour se protéger d'un danger. Et c'est aussi valable, par exemple, dans les relations. Par exemple, moi, je vais vous confier que j'ai horreur du conflit. C'est un truc, oh là là, c'est... Mathieu, il en est témoin souvent. Oh purée, quand il y a conflit, moi, c'est gros feu rouge, je pars. Si je pouvais m'enfermer à clé dans ma chambre et me cacher sous ma couette, je le ferais. Mais je ne peux pas toujours faire ça. Et souvent, je dois confronter ma peur et affronter le monstre du conflit. Et il faut savoir quatre choses à propos de ces peurs, de ces douleurs. Je vais appeler ça douleur pour, parce que je prends cette image physique. C'est que la douleur, c'est rarement le vrai problème. Mais c'est plutôt un symptôme. La douleur, elle, son but, c'est de nous conduire à la racine du problème. Et l'intensité de la douleur, ça ne détermine pas la taille du problème. Par exemple, si je me mets malencontreusement une écharde dans le doigt, ça fait super mal. Hein, ça peut faire super mal. Eh bien, tout notre corps va souffrir. Mais pourtant, une écharde, c'est minuscule, quoi. Et ignorer la douleur, ça aura pour conséquence d'aggraver le problème. Parfois, on a envie de faire l'autruche, de refermer la cocotte, là, hein, de remettre le couvercle, mais ça ne va pas... déjà, le problème va rester, mais en plus, ça va aggraver le problème. Par exemple, si on a une rage de dents et qu'on prend que des antidouleurs, alors peut-être on va aller mieux, on va dire « Ah, c'est chouette et tout, j'ai plus mal ». Mais la rage de dents, si on ne la soigne pas, elle va empirer. Jusque si on continue, on va peut-être finir par avoir une dent en moins. Et sans même s'en apercevoir, en fait, ces peurs, ces choses douloureuses dans nos vies qu'on pense enfouies, en fait, ça va agir comme des filtres à travers lesquels on va appréhender les événements de notre vie. Et ces filtres, donc non seulement on va voir à travers ces filtres, mais ça va aussi définir nos choix. Ça va conditionner nos décisions. On a appris à vivre avec et quelque part, on s'en est accommodé. C'est comme si on est un peu boiteux, quoi. On avance comme ça, oui, c'est comme ça, puis j'avance comme ça. Et on a réduit même nos attentes au niveau de ces peurs et de ces douleurs. Parce que c'est là depuis tellement longtemps, puis c'est comme ça, quoi. Et j'ai envie de vous challenger, de vous provoquer un peu comme Jésus l'a fait avec cet homme, si la solution justement c'était de les confronter, de les affronter ces peurs, cette épreuve, cette douleur, et de lui faire face. Alors là je vais vous donner quelques clés, parce que par nos propres forces, on n'est pas toujours, souvent, on n'est pas toujours très efficace et puis on va plus s'épuiser qu'autre chose. Alors premièrement, je vais dire quelque chose qui va vous sembler peut-être très basique, mais c'est faire confiance à Dieu. Il va m'aider, il m'aime, il est bon, il veut le meilleur pour moi, il ne change pas. Ça, c'est la nature de Dieu, mais parfois, on a une fausse image. Si on regarde, si c'est nos épreuves, le filtre, on va voir Dieu à travers. Si on voit Dieu à travers nos épreuves, on va dire non, Dieu n'est pas bon. Regarde, je souffre. Non, Dieu il m'aime pas parce que s'il m'aimait vraiment, je passerais pas par ce temps-là. Et c'est important de se rappeler, de rappeler à notre esprit, à notre âme, qui est Dieu. Dieu ne change pas. Dieu nous aime. Dieu il est bon. Et moi, en qui je place ma confiance? Est-ce que ma foi, je la place dans mes peurs, dans mes épreuves, qui sont plus fortes? Non, c'est plus fort que moi, je peux rien y faire. Ou bien je la place en Dieu. Est-ce que je considère que mon problème, il est plus grand que lui? Et dans ce cas-là, ma foi, je la place dans mon problème. Ah, mais tu comprends? Regarde, dans ma famille, il y a de la dépression de génération en génération. Donc, moi, je suis dépressive, mais ma mère était dépressive, puis ma grand-mère était dépressive, puis ma tante est dépressive. Là, si je commence à... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut nier le problème, mais où est-ce que je place ma foi? Combien de fois on fait des choix guidés par nos peurs? La peur de dire non, la peur de ne pas plaire, la peur de faire des erreurs. Et j'ai envie de vous challenger. Rappelez-vous que derrière nos plus grands défis se cachent nos plus grandes victoires. Et je crois vraiment qu'il y a des domaines dans nos vies stratégiques auxquels l'ennemi s'attaque parce qu'il sait que c'est là qu'on aura un impact de fou. Et je me souviens un témoignage par rapport à ça. Je ne lui ai pas demandé, mais... en juin, quand on a passé un week-end extraordinaire avec nos amis Olivier et Elodie, et je me souviens d'une conversation avec Elodie où on parlait de rêves, et puis on parlait de la danse, et puis Je disais, Hello, je sens vraiment qu'il faut que tu danses. Il faut que tu danses dans tes temps avec Dieu. Il faut que tu danses et tout. Et je disais, tu sais, parfois, il y a des choses qui nous coûtent, qu'on ne sait pas trop, mais je sens qu'il y a une victoire. Et quand on voit ce qu'on a vécu à la dernière soirée, à ciel ouvert, où Hello nous a apporté une atmosphère du ciel, et je pense qu'il y a vraiment eu des libérations, des délivrances, quand elle a dansé, je dis, waouh, derrière nos plus grands défis, ce qui nous fait le plus peur, il y a nos plus grandes victoires. Et Dieu nous utilise puissamment dans ce qu'on, quand on sort de l'épreuve. Et c'est bien de se rappeler que Dieu ne nivelle pas par le bas. Hein, parfois, on va appeler Dieu, puis c'est comme si on dit, non mais viens, viens là, viens voir. Et puis Dieu nous appelle et nous dit, non viens, je t'ai appelé à régner. Par Jésus, nous avons accès à lui. Deuxième point, après faire confiance à Dieu, n'entretenons pas notre souffrance. Ne lui chantons pas de berceuse. Ne l'accueillons pas pour qu'elle s'installe, qu'elle se sente bien chez nous. Hein, parfois, c'est un peu la tentation, ah, j'ai le moral dans les chaussettes, ben, je vais me mettre une musique un peu déprimante, puis je vais aller mettre dans mon lit, et je vais pleurer sur la musique. Alors, ça fait du bien de pleurer, hein, parfois, on a besoin de pleurer. Mais... ne nous entretenons pas dans cette souffrance. Et plutôt, chantons des chants de victoire. Hein, comme on a chanté tout à l'heure avec Olivier, je l'avais noté, « Mon âme bénit l'Éternel », psaume 103. « N'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est bien de donner des ordres à notre âme. Elle a besoin que notre esprit lui rappelle que c'est lui qui gouverne. Rappelez à votre âme qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans vos vies. Et c'est beaucoup plus efficace. Parfois, on va prier encore cette semaine. Je passais un temps avec Dieu, puis je commence à lui dire tout ce qui ne va pas, à lui déblatérer un peu ma vie, ma misère. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, bah, attends, Seigneur, je préférerais en fait que tu me dises, plutôt que te dire tout ce que je fais mal, est-ce que tu peux me donner une image de comment toi tu me vois? Et le Seigneur m'a montré un diamant qui était... brut et sur certains aspects qui étaient travaillés. Il m'a dit, bah, tu vois, c'est comme ça que je te vois. Ton identité, ta nature, tu es un diamant. Oui, il y a des aspects où tu es encore tout brut. On ne voit pas que c'est un diamant. Mais regarde là où j'ai travaillé. Regarde, moi, ce que je fais à travers toi. Regarde les endroits où je t'ai poli, comme tu reflètes la lumière, comme on voit à travers, comme tu reflètes mon éclat. Et waouh, ça m'a marqué. D'autant plus qu'après... dans ma lecture de la Bible, c'était un verset sur nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. J'étais là, waouh, Seigneur, énorme. C'est beaucoup plus, j'étais waouh, complètement reboostée et beaucoup plus encouragée que d'avoir déblatéré toute ma misère. Et si vous ne savez pas à quoi prier, il y a un verset qui dit, de même l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Chantez en langue, parlez en langue, dites à Dieu que vous l'aimez, louez-le, ça sera waouh. Et plus vous allez vous remplir de ça, plus votre âme va s'élever vers lui. C'est génial, parler en langue. Il y a une petite phrase en anglais, il n'y a pas de traduction vraiment en français, mais vous allez comprendre, ça dit « Misery loves company ». Ça veut dire que souvent, quand on se sent misérable, eh ben, on aime bien ne pas être seul à se sentir comme ça. Et parfois, on va avoir tendance, la tendance, ça va être s'entourer de personnes qui vont nous dire « Ah, mais mon pauvre, ah, mais ma pauvre et tout », qui vont s'apitoyer sur nous. Mais ça, ce n'est pas de la compassion de s'apitoyer sur quelqu'un. La compassion, quand on est rempli de compassion, on souffre avec la personne qui souffre, mais on ne va pas entretenir la personne là-dedans, c'est différent. Et entourons-nous de personnes qui vont confronter notre misère, qui ne vont pas la nourrir. D'ailleurs, quand on voit la réponse de Jésus, il n'était pas dur, il n'était pas dépourvu de compassion quand il lui a dit « veux-tu être guéri ?» et même quand il lui a dit « lève-toi et marche », c'était pas une réponse dépourvue de compassion, mais c'était pas de l'apitoiement. Il lui a dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Et là, la guérison s'est opérée. On aime bien se faire plaindre parce que, en fait, ça nous fait nous sentir normal. Mais ce n'est pas normal de se sentir misérable. c'est commun, mais c'est pas normal. Et ça, c'est pareil pour... si on prend l'exemple du cancer, le cancer, c'est commun, mais c'est pas normal. C'est pas ça que Dieu veut pour nous dans nos vies. Appelons le normal de Dieu dans nos vies. Le normal de Dieu, c'est son royaume. Son royaume, c'est quoi ? Romains 14, verset 17. C'est le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et encore une fois, on ne sait pas quoi prier. Seigneur, donne-moi ta paix. Seigneur, donne-moi ta joie. Seigneur, sois ma justice. Et puis se rappeler que ce n'est pas la fin. Et trop souvent, au milieu de la souffrance, au milieu des épreuves, on pense que ça y est, on va stagner là, ça s'arrête là, je suis coincée là jusqu'à la fin de ma vie. Et on a l'impression qu'on va y rester. On n'arrive pas à voir plus loin. Et Olivier et Elodie nous l'ont rappelé encore il y a 2 semaines, c'est normal d'avoir des saisons dans la vie, de passer par des différentes saisons. Il y a des fois, c'est le printemps, où on a l'espoir qui est là, puis des fois, c'est l'hiver, on a l'impression que tout est mort. Mais... dans les saisons les plus difficiles, veillons à ne pas nous y installer dans cet hiver. Un peu comme ça me fait penser à Narnia, pour ceux qui l'ont vu, au royaume de l'hiver qui s'était installé depuis des années. Et dans le psaume 23, qui est très connu, David dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Marcher, quand on marche, on n'est pas immobile, on n'est pas statique. Hein ? On ne s'arrête pas là, on avance, on est en marche. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne m'y arrête pas. Où est-ce que je m'arrête ? Où est-ce que je me repose ? Près des eaux paisibles. Tu peux mettre... Voilà. Désolée, c'est en anglais, mais il y a beaucoup plus de ressources visuelles en anglais. Il me conduit près des eaux paisibles. Là, c'est là où je m'arrête. C'est là où je me repose. Ce n'est pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, sortons le monstre du placard. Et vous savez, je sais que peut-être il y en a, ce que je dis là, ça vous offense, ce que vous dites, mais attends, j'ai prié tellement de fois pour ça, et puis je lutte toujours avec ça, et puis j'ai prié tellement de fois pour la guérison, et puis j'ai jamais rien vu. Alors non, moi j'arrête. Et puis parfois on peut être offensé par Dieu, on peut être offensé par des personnes qui nous disent des choses, et... J'ai envie de vous dire, ne restons pas offensés. Apportons cette offense à Dieu, mais ne restons pas offensés. Et le but de ce que je vous partage aujourd'hui, c'est de réveiller l'espoir en vous. De vous dire, allez, encore une fois, je vais essayer. Allez, je vais reprier pour ça, même si j'ai prié des centaines de fois. Et puis j'ai l'impression qu'il n'y a aucun changement. Hier soir, on en parlait encore avec Christelle et Eric. Quand on prie, il n'y a aucune prière que Dieu n'entend pas, que Dieu ne recueille pas. Il se passe quelque chose. Nous, on ne le voit pas. On est dans notre monde là, matériel, naturel, mais on ne le voit pas. Mais dans le domaine spirituel, il se passe quelque chose. Alors, persévérons. C'est une des clés, la persévérance. C'est quelque chose qui est difficile, je trouve, d'autant plus dans nos vies, dans la société dans laquelle on est, où on veut tout de suite, on veut du résultat tout de suite. S'il n'y a pas de résultat, hop, poubelle, j'en veux pas. Mais la persévérance, c'est tellement quelque chose dans lequel, moi j'aspire à grandir, dont j'ai besoin, parce que les fruits, ils viennent aussi de la persévérance. Parfois, Dieu fait les choses comme ça, c'est génial, et on prie pour ça, mais parfois ça prend plus de temps. Et par rapport à ça, je vais pas le lire, mais je vais juste vous donner l'exemple de la pêche miraculeuse dans Jean 21. Les disciples, ils avaient essayé de pêcher toute la nuit. Toute la nuit, ils avaient pêché sur le lac, ils n'avaient rien pris. Jésus arrive le matin et leur dit « Hé, les enfants, vous avez pêché ?»« Ben non, on n'a rien pêché. »« Ah, ben jetez vos filets de l'autre côté. » Mais est-ce que vous pensez qu'ils n'avaient pas... déjà jeter leur filet de l'autre côté. Parce qu'on peut se dire, s'ils avaient pêché toute la nuit, on va dire la nuit, 12 heures. Pendant 12 heures, vous pensez qu'ils avaient mis leur filet que d'un côté de la barque ? Ah, merci Jésus, je n'y avais pas pensé. Non. Mais Jésus arrive au matin et leur dit, jetez vos filets de l'autre côté. Et il dit, sur ta parole, je jette mon filet de l'autre côté. Et là, l'abondance, la pêche miraculeuse. Rappelez-vous, les victoires que vous remportez, c'est pas seulement pour vous. Le but là, c'est pas de ah bah c'est bien, je suis chrétien, bah maintenant je me sens mieux et puis je suis bien dans ma vie et puis tout va bien, le but c'est de régler tous mes problèmes. Non, oui, vos victoires, vous en êtes les premiers bénéficiaires, mais on est en mission. Tout ce que Dieu vous donne, vous allez le redonner. C'est un Dieu qui multiplie, c'est un Dieu qui donne, c'est pas juste pour garder tout pour moi. Et les victoires que vous remportez, et bien vous allez être capable d'amener les autres, de conduire les autres dans ces mêmes victoires. Parce que c'est comme si, au niveau spirituel, Dieu vous donnait l'autorité pour remporter la victoire. Et cette victoire-là, vous allez pouvoir amener d'autres à la vivre. Et ça, c'est important de se rappeler qu'on est en mission en tant qu'Église, individuellement, dans nos foyers, dans notre quotidien, mais aussi en tant qu'Église. On a chacun, Dieu nous donne à chacun des domaines dans lesquels il veut qu'on remporte des victoires pour amener son amour. Et puis personne ne peut contredire un témoignage personnel parce que c'est du vécu. Ce que vous vivez, parfois on a envie de convaincre les gens en leur disant « Oui, mais Dieu dit ça, Dieu dit ça. » Mais ce que vous vivez, personne ne peut le contredire. Les gens, ils pourront... Parce que c'est ce que c'est vous, c'est qui vous êtes, c'est votre vécu. Hein ? Voilà. Waouh. Et pour finir, eh ben, je veux simplement vous inviter à demander à Dieu dans quel domaine de ma vie, dans la saison dans laquelle je suis, tu veux me donner la victoire. Parce que vous savez, Dieu, il est là, il agit et il se manifeste. Dieu, quand il est là, il reste pas là dans son coin à nous regarder. Il est là et il se manifeste concrètement. Il vient et il nous appelle, il nous accueille et il veut nous donner des choses. C'est une invitation qu'il nous donne. Et est-ce que tu peux mettre le chant, mais un peu plus doucement, Carole, s'il te plaît ? C'est ce chant qui m'a portée dans cette période de souffrance, comme le cerf soupire après les courants d'eau. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Et je sais que Dieu vous a certainement parlé par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Quelle est cette souffrance dans votre vie, cette maladie qui s'est installée ? Ce défi qui vous paraît insurmontable ? Peut-être c'est une addiction, peut-être c'est des problèmes d'argent, peut-être c'est des problèmes dans votre couple, peut-être c'est des problèmes avec vos enfants, avec votre famille. Quelque chose qui vous fait peur, qui vous paraît insurmontable. Vous dites, non, c'est pas possible, j'ai déjà tellement essayé de fois, mais ça marche pas. Et je vous invite à vraiment amener ça à Dieu. Amenez-le à Dieu. Confessez-lui, exprimez-lui votre souffrance. Si vous êtes en colère, vous pouvez le dire à Dieu. Dieu, il a pas peur du fait qu'on soit en colère. Demandez à Dieu de vous libérer, de vous guérir. Vous savez, Jésus nous dit, demandez et vous recevrez. Parfois, Dieu, il est trop simple. On aimerait compliquer les choses. Et en même temps, il est tellement mystérieux et grand qu'il y a des choses qui nous échappent. Mais Jésus nous dit simplement, viens à moi, demande-moi, demande-moi. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau. Demandez à Dieu la force, demandez à Dieu le courage. Demandez à Dieu la persévérance. Il y a peut-être des choses, des actes de courage que Dieu va vous demander de faire dans la semaine. J'ai cette pensée qu'il y a quelqu'un qui est fâché avec son frère ou sa sœur et qui a pas de relation avec son frère ou sa sœur, et je sens que Dieu vient réveiller peut-être cette souffrance, elle était enfouie parce que bah, finalement, j'ai pas de relation, donc j'ai pas mal, je suis plus blessée. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui a été blessé dans sa relation avec son frère ou sa sœur. Et Dieu t'appelle à renouer. Dieu t'appelle à lui téléphoner, peut-être à lui envoyer un message, à lui écrire une lettre, mais à faire de ton côté, en tout cas, dans le domaine qui t'appartient à toi, à aller vers ton frère, vers ta sœur.
Amen Seigneur. Amen Seigneur. Amen Seigneur. Seigneur, vraiment on te remet, on te confie Seigneur. On se confie tout notre être, tout ce que nous sommes, ce que ce moine exprimait. Au-delà du contenu de nos vies, au-delà de ce qu'on vit chaque jour, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, devant toi. Avec nos imperfections, Seigneur. Mais Seigneur, merci parce que, comme disait Maëlou, tu nous appelles plus haut. Tu nous appelles à venir auprès de toi. Merci parce que grâce à toi, Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et je prie pour chacun de nous cet après-midi que la réalité dominante de nos vies ne va pas être ce que l'on voit avec nos yeux d'hommes et de femmes, mais c'est que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes dans la salle du trône avec le Père, là où notre place a été réservée. C'est quelque chose qui est là pour nous pour l'éternité, mais dès aujourd'hui, que nous vivions de cette place-là, cette place de citoyen, citoyenne des cieux. Seigneur, aide-nous vraiment à nous tourner vers toi, à lever les yeux, cette semaine, Seigneur, cette journée, à lever les yeux vers toi, Seigneur. Aide-nous aussi à être là les uns pour les autres, parce que des fois, on est tellement mal que seul, on n'arrive pas à faire ce travail-là, Seigneur. Mais on est là les uns pour les autres. Aide-nous à appeler quelqu'un qui va nous tirer vers le haut. Merci Seigneur. Merci d'être là les uns pour les autres, de pouvoir vivre ça en communauté aussi. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour les bons fruits que l'on va voir, Seigneur, de tout ça. Pour les bons fruits, Seigneur, que l'on va voir. Merci Seigneur, parce que tu multiplies. Merci Seigneur. Amen Seigneur. Amen Seigneur.
Oui, tout à l'heure, pendant les chants, pendant qu'on priait, j'ai reçu l'image d'une colombe, en fait, qui volait au milieu de nous. Et cette colombe, en fait, elle cherchait une épaule sur laquelle se poser. Et en fait, elle ne peut pas se poser d'elle-même sur cette épaule si on ne l'invite pas à s'y poser. Et en fait, cette colombe qui représente le Saint-Esprit, elle voulait se poser pour consoler. Donc, je crois vraiment qu'il y a le Saint-Esprit qui est là et qui veut consoler quelqu'un. Acceptes-tu de recevoir cette consolation? C'est toi qui dois l'inviter. Si ça parle à quelqu'un, ben on peut prier. Voilà.
Merci Christelle. Eh ben,